Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up radiophonique qui vit les boobs à l'air. Et voici les trois sujets qui vont enlever le haut avant 18h. Bon anniversaire Lehman Brothers. Il y a 10 ans, la faillite de la banque déclenchait notamment une crise mondiale avec d'autres. Et si ça se fête, car les anciens de Lehman Brothers ont prévu une sauterie à Londres, peut-être même à Hong Kong, voire New York.
Ben messieurs, tout ça c'est du passé, de l'imagerie ancienne. La joie n'est plus de ce monde. La maison est fermée et je doute que vous en trouviez une d'ouverte.
Netflix serait-il sexiste? La plateforme qui assure le renouveau des séries et du cinéma serait-elle plus progressiste qu'Hollywood? Peut-on compter sur Netflix pour faire avancer la cause des femmes?
Des artistes comme toi, je fais un coup de pompe dans le piano, il en dégringole une douzaine.
Confidence pour confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé et en dégringole 50. J'irai montrer mon cul ailleurs.
Dans la Startup Nation, on n'organise pas bêtement les réunions dans une salle. Pour rendre la réunion plus fun, on part une petite heure en co-walking. On part marcher en fait, mais enfin pas trop loin quand même.
Arthur, monsieur le ministre, je veux faire une intervention ce soir au JT. Sur la guerre de l'Anchois avec l'Espagne.
Ça a l'air de bien marcher. Lui et moi, nous co-walkons quotidiennement depuis plusieurs années déjà. Bonjour Alex Vizorek.
Vous êtes une sacrée co-walkeuse, Charline Vanhoenacker. Et pour ça, j'ai une belle équipe autour de la table, que des femmes brillantes. Et Thomas Croisière, à 17h20, celle qui est capable de convoquer Epictète pour nous parler coton-tige, c'est Isabelle Sorrente. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Je vais vous parler de rituels aujourd'hui.
Très bien, je n'étais pas tout à fait à côté. À 17h30, très peu de gens embarqueraient avec lui et c'est pour ça qu'il est taqué chez nous, le capitaine du Costa Jupiteria, c'est Thomas Croisière. Bonjour.
Bonjour, et c'est pour moi la consécration puisque je suis assis à la place de Guillaume Meurice qui nous a quittés pour les raisons que l'on sait.
Et à 17h40, j'espère qu'elle a bien regardé la chronique de Constance hier et que ça l'inspirera pour enfin je puisse découvrir l'Everest de mes frustrations. C'est Clara Dupont-Monod. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline,
c'est
bonjour à tous.
Pas sûr, de quoi on va parler?
Des grandes histoires d'amour qui laissent des silences meurtriers.
Nous.
Merci Alex pour ce tour de table. Si vous n'écoutez que la radio, vous pouvez peut-être deviner laquelle ou lequel de ces chroniqueurs est torse nu. Allez, voici celle qui va garder le haut si tout se passe comme prévu. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Pascal Arbillot.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Pascal Arbillot. On peut vous voir en salle à partir d'aujourd'hui dans Guy, le film d'Alex Lutz, avec notamment Nicole Calfan, Dany, Elodie Boucher, Marina Hans, Julie Arnold, entre autres, et notre amie Nicole Ferroni. Alex Vizorek, avant que Thomas Croisière ne nous parle également de Guy et devant Pascal Arbillot, vous avez vu ce film?
Et bien sûr, et vous savez, comme vous êtes une auditrice d'Inter, quand c'est moi qui fais l'interview culturelle, bon, ça place tout de suite le niveau, donc préparez-vous. Pascal Arbillot. Le film, c'est Guy et c'est un faux reportage. Enfin, le film se présente comme quelqu'un qui veut aller faire un reportage sur ce chanteur Guy Jamais, qui est encore un petit peu connu, mais de ses anciennes fans. Je ne vais pas donner de nom de chanteur, mais il y en a encore quelques-uns qui pourraient être dans ce cas-là. Il a connu tous les yéyés, il a connu Clo-Clo, il trouve qu'il chante un peu du nez, qui est un peu surfait d'ailleurs. Et on le suit aujourd'hui dans le monde qui est plus trop le sien. Et c'est Alex Lutz qui joue ce personnage, qui doit avoir 70 ans, sans doute aujourd'hui, quand il vous a proposé ce scénario, qu'il vous expliquait qu'il allait lui jouer le vieux chanteur de 70 ans. Comment vous avez perçu cette analyse? Comment vous avez...
C'est une question.
Non, mais je veux dire. Vous pensiez qu'il allait y arriver ou pas, c'est ça?
Oui, non, mais est-ce que vous êtes dit, c'est complètement. Oui, non, mais c'est. Au fond, c'est ça la sous-question.
Parce qu'il réalise, il joue
ouais,
le rôle principal.
Il est trop travailleur, trop brillant. Génial, je me suis même pas... quand je l'ai vu pour la première fois maquillée, pas du tout, au contraire. J'ai vu son premier spectacle, il faisait un vieux, justement, qui était bouleversant, extrêmement drôle. Et à la fin, il y avait une crise cardiaque, c'était pathétique, déchirant. Et donc, immédiatement, j'ai su surtout que ça lui ressemblerait, que c'était pile poil ce qu'il fallait qu'il fasse aujourd'hui.
cette époque-là de Guy Jamais au temps de sa splendeur, ouais. elle vous amuse.
Vous avez connu les yéyés, c'était comment les yéyés, Pascal Arbillon?
C'est pas mon genre. Je suis fou de Michel Thor, donc voilà, ça passe le problème. C'est une époque qui vous amuse, qui vous intrigue, qui vous intéresse pas du tout.
Bah, je m'identifie pas à cette époque-là. Ça me rappelle plutôt mes parents où j'ai des souvenirs.
On vous a collé devant les carpentiers quand vous étiez jeune. Ça vous emmerdait. Ça vous amusait.
Mais ça
vous...
faisait rêver. Et il y avait encore des émissions où on passait en. Alors c'était souvent en playback, mais il y avait quand même cette espèce de réunion familiale qu'on partageait. La variété. Je suis pas une grande fan de variété au fond. Et je la redécouvre aujourd'hui bizarrement. Alors peut-être que c'est parce que j'ai un retour aussi de.
Bientôt, vous allez plus écouter Inter parce qu'il n'y a pas les masses.
Peut-être. Quoique, la programmation est assez éclectique.
On saluera Chewbacca. Votre rôle, vous êtes la compagne aujourd'hui.
Ouais, aujourd'hui, la dernière. La dernière. Femme libre, en gros.
Et oui, non, mais c'est-à-dire que.
Mais c'est un peu ça. Vous l'avez dit dans le film d'ailleurs, c'est un peu.
Vous l'avez connu.
Celle qui va toucher l'héritage.
Ouais. Est-ce que.
Bah oui. Est-ce que vous êtes. Parce que je sens qu'il a beaucoup de dettes, en fait, je pense.
Pas... On ne le sait pas. Vous êtes inspiré de personnages existants.
Pas du tout.
Parce que moi, vous m'avez fait penser un peu à la Nati de Jean-Paul Belmondo.
Ah ouais?
Avec les petits chiens sous le bras.
Ah, c'est les chiens. Ah ouais. Non, mais j'ai même pas pensé. Non, si on a travaillé petit à petit, on voulait pas tomber dans une caricature, dans un cliché, justement, mais c'est très difficile. En même temps, la vie est un cliché. Les gens sont des clichés. Donc, il fallait trouver des détails. On s'est passé par la coiffure au bout d'un moment. On a fait de la mousse au lieu de mettre des boucles.
Et les chiens.
Et les chiens. Qui sont les chiens du coiffeur du film, ce sont des vrais chiens. Ça veut rien dire cette phrase, ce sont les chiens du coiffeur, donc ils sont des vrais chiens.
Est-ce que la difficulté, c'était pas, et je trouve qu'il s'en est hyper bien sorti, je l'ai pas dit, mais le film est formidable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Non mais c'est vrai,
Il y a aucune condescendance.
Oui c'est ça, il pèse bien le côté, oui il y a de la nostalgie, mais oui c'était pas mieux avant. Je trouve que justement il n'y a pas ce côté...
Bah non, parce que ça parle de ça, du fait que du temps qui passe, de la d'artiste, et c'est quoi
de la célébrité qui peut s'en aller, qu'on peut
de l'intime et de l'extérieur des choses, et c'est ça qui est dément. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression qu'il a existé, ce mec qui se dit. Et j'ai vu un concert, il a fait un concert en Angoulême, un festival génial, mais vraiment, et il a fait un vrai concert, 12 chansons, avec des reprises, des rappels, et en fait, il a fait un album dont on voit le 10e dans le film. Donc, il a créé de toutes pièces.
Thomas Croisière parlera de la chanson titre, qui aurait vraiment pu être une chanson qui était un succès à l'époque. Ouais.
Ouais. Puis dans le film, il fait une reprise de Montréal de Charles Bois,
sublime.
Qui est un des moments les plus émouvants du film. C'est-à-dire, il le chante vraiment tout droit. C'est la seule fois où il y a un titre que l'on connaît tous. Et c'est un moment bouleversant.
C'est sublime.
C'est Guy d'Alex Lutz qui sort en salle aujourd'hui avec Pascal Arbillot, entre autres. Vous êtes sur France Inter. Quelle chance! On est ensemble jusqu'à 18h. N'hésitez pas à nous rejoindre sur franceinter.fr et admirer le torse de...
Ah, pour longtemps, il voulait remettre sa chemise.
Oui, parce que c'est climatisé.
Ah,
et écoute Donovan. Take time, I know it, but in a while, you're gonna be mine, I know it, we're doing it in style, cause I made my mind, and you're going to be mine, I'll tell you right now.
Sunshine Superman. Pascal Arbillot, vous aimez Donovan, je vous ai vu vous déhancher sur cette chaise. Pascal Arbillot qu'on peut voir dans Guy, le film d'Alex Lutz qui est en salle aujourd'hui. Et qui est torse nu ?
Thomas Croisière, malheureusement.
Ouais. Et qui est habillé ?
Qui est habillé ? Isabelle Sorrent et Clara Dupont-Monod.
Et nous, on déshabille l'info avec le journal.
Nous venons de l'apprendre sur France Inter, la démission de Nicolas Hulot.
C'est une plaisanterie ?
La réponse est non.
Le journal de presque 17h17.
Je n'y crois plus.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait pouvoir toujours compter sur l'engagement de Nicolas Hulot.
Et on est tous comme ça. Si on pouvait de temps en temps repasser voir son ex, on ne dirait pas non.
De son côté, Édouard Philippe était hier à l'université d'été de MEDEF.
Eh oui, pour faire taire les mauvaises langues, le gouvernement s'occupe de certaines universités tout de même.
Et des brèves ?
Oui, parce qu'on n'a pas du Francis Lalanne tous les jours.
Ah non, ça... Dieu nous en garde.
C'était hier. Et on commence par cette étude sur la pollution.
Oui, selon le magazine Que Choisir, sur 102 échantillons de mollusques et de crustacés analysés, deux tiers contenaient des particules de plastique.
Oui, à ce rythme-là, il y aura bientôt plus de plastique dans le surimi qu'autour de dans son emballage.
Qui l'entoure. Il en démissionne !
Ah, oh, bah non, il ne peut plus démissionner du coup.
Ah, c'est vrai, bah, oui. c'est vrai. À ce propos, Gérard Collomb a déclaré à propos du lot qu'il gardera un très bon souvenir dans leur travail en commun.
Oui, on ne crie pas victoire trop vite, Gégé. Il y a l'Alzheimer tout de même.
Oui. À gauche, Michel Sapin a dit regretter, je cite, un grand gâchis.
Et on peut le croire sur parole, Michel Sapin, il s'y connaît en grand gâchis, il est au Parti Socialiste depuis 75.
Passons au MEDEF, le patronat encourage le gouvernement à continuer les réformes.
Tu m'étonnes, c'est comme un buraliste qui encouragerait ses clients à fumer. Ça coince aujourd'hui.
Vous n'allez pas voir à midi. Parlons de réformes, venons-en aux retraites.
Oui, ce matin sur BFM TV, on a demandé à Christophe Barbier si les retraités en colère, ça pouvait être dangereux. Électoralement pour Emmanuel Macron et notre cri-cri a évoqué une raison. On ne s'attendait pas à celle-là.
Sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts.
Voilà. Heureusement qu'il n'est pas tombé dans le cynisme.
C'est sûr, hein, retraite toujours.
Oui, pour Aurore Berger, la députée La République En Marche, les Français sont schizophrènes et les retraités peuvent faire un effort.
Attendez, Aurore Berger,
oui.
On parle bien de la personne qui a soutenu Sarkozy,
oui.
Puis Fillon.
Oui.
Puis Juppé,
oui.
Et puis Macron.
Oui, mais les Français sont schizophrènes. Hein.
Ah,
oui. Bah, oui.
International,
oui.
Alors. L'armée russe va organiser ses plus grandes manœuvres depuis la guerre froide.
Oui, et j'en profite pour le dire sur cette antenne, toute l'admiration que j'ai pour Vladimir Poutine, qui est un grand homme. J'anticipe,
ouais.
on sait jamais.
Oui, d'accord. International, toujours en Belgique, un prêtre flamand fait polémique.
Oui, la messe du dimanche en direct à la télévision et à la radio disait ceci. Femme, soyez soumise à votre homme, comme l'homme est soumis au Seigneur, car l'homme est à la tête de la femme, comme le Christ est à la tête de l'Église. Alors moi, je ne veux pas juger le fond.
Mais il s'est expliqué,
bien sûr, il a rassuré tout le monde en disant que la lettre avait été lue dans toutes les églises et dans toutes les langues par le monde ce jour-là. Ce texte revient tous les 3 ans. Et il évoque l'amour.
Ah, on est rassuré alors.
On est rassuré.
On peut donc passer au sport.
Oui.
La Fédération française de rugby a interdit les plaquages au sol jusqu'à l'âge de 12 ans.
Oui, Jean-Marc Morandini a donc décidé de s'inscrire au judo.
Sport en peignoir, hein. Bref.
Oui, une Américaine a récolté 400 000 $ pour aider un sans-abri et les a finalement gardés pour elle. Apparemment, ils ont de la famille aux États-Unis, les Fillon.
La dernière.
Oui, Chine, un couple qui voulait un enfant, s'y prenait de la mauvaise manière depuis 4 ans. C'était de l'autre côté, oui, on va pas se mentir, on a tous un petit peu essayé ce stratagème. Chapeau, monsieur.
17h24, par Jupiter, sur France Inter, notre invité Pascal Arbillot, qu'on voit dans Guy, le film d'Alex Lutz. Et on va aborder ce premier sujet avec vous, Pascal, qui a trait à votre première vie de journaliste financière, on peut dire.
J'ai préparé le capitalisme.
Oui, tout à fait.
Et puis j'ai bifurqué.
Parcours Sciences Po, journaliste économique et financière.
Mais je viens d'une famille où ma mère a eu ses parents avaient des problèmes de sous et elle s'en est sortie par les études. Et je viens plutôt de la
méritocratie.
Parcours, Et après, c'est tout le problème. C'est quand on fait ce parcours-là, après, on devient capitaliste. Qu'est-ce qu'on fait?
Vous faisiez ce métier de journaliste financier pour payer vos études de théâtre?
Ouais.
En plus, nous avons une capitaliste de gauche avec nous, nous allons traiter ce premier sujet. Il y a 10 ans, la crise était déclarée avec pour symbole la banque Lehman Brothers, l'amorce de la déflagration mondiale, 10 ans de crise. Eh bien, ça se fête, oui, chez les anciens de Lehman Brothers, bien sûr, ça se fête à Londres, le 15 septembre. Alors, l'endroit prévu devrait changer parce que la presse est au courant et ça fait un petit peu scandale en Angleterre. Alors, qu'en pense-t-on chez les ex-cadors de la finance? On a bien dégringolé depuis. Merci Patrick Bruel. Alors, aujourd'hui, Pascal Arbiot, la finance, c'est votre ami ou votre ennemi? Alors, on aimerait savoir.
Ben, je ne peux pas, moi je vais faire mon rémoire. Enfin, ouais,
le Macron, en même temps, même
Macron. Vous êtes non, mais je ne peux pas taper sur... C'est pas non plus une réunion de conjurés, c'est pas l'ordre du jour de Vuillard, là, ce beau bouquin que j'ai lu très récemment. Lehman Brothers, c'était une petite entreprise à l'origine qui a participé à la croissance aussi américaine et ça a été le... Elle a été lâchée, c'est la seule banque qui a payé pour toutes les autres. Et il y en a encore des Lehman Brothers. Donc eux qui se réunissent, à la limite, c'était aussi des employés. Je ne sais pas qui se réunissent, que c'était les têtes. Je sais pas qui.
Et s'il y a du second degré dedans ou pas.
Voilà, non, mais c'est qu'à un moment donné, c'est qui Lehman Brothers aujourd'hui, potentiellement. Mm-hmm. Et voilà, voilà.
Donc vous êtes toutefois nuancé, votre parcours totalement... et vos études ont fait que.
Je suis coupée en deux. Ma mère était de droite, mon père de gauche. Et voilà. Voilà. J'ai vécu la dialectique permanente.
Et, oui, étant donné qu'on se construit un peu parfois en opposition aux idéologies de ses parents.
Je suis schizophrène, comme voilà, c'est bon, allez.
Ou alors vous êtes la troisième voie.
Je vous trouve très gauchiste, mais dès qu'il y aura Guillaume Meurice, je vous trouverai totalement de droite.
On va en reparler. S'il
revient ou pas?
Est-ce qu'il revient?
Apparemment, non.
Jamais.
Mais écoutez, on va en reparler tout à l'heure.
Ah merde.
Écoutez, peut-être entendra-t-il votre appel, on verra tout à l'heure.
Une chute de vélo tragique.
Clara Dupont-Mono.
Ce qui est plutôt un peu réfrigérant, c'est que l'email qui a été envoyé aux ex de Lehman Brothers, s'adresse aux, je cite, frères et sœurs de Lehman. Alors évidemment, en référence à Lehman Brothers, le frère et sœur de Lehman, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la secte, quoi. Je pense que chez Raël,
toutes les entreprises sont des sectes, c'est la culture d'entreprise.
Oui, mais frères et sœurs.
Ici, France Inter, c'est une secte, on le sait.
Et pourquoi vous écoutez?
Il y a des esprits libres.
Ce que je veux dire, c'est que la culture d'entreprise, c'est pas quelque chose de sectaire. Enfin, alors après, faut aller dans le Larzac et faire autre chose, mais c'est compliqué de tout voir comme ça. Je trouve ça très. Moi, j'ai peur de la réaction aujourd'hui. J'ai peur des mouvements réactionnaires. Donc, je fais très très gaffe de pas taper. Ça m'angoisse, moi, ce genre de sujet, justement.
Mais donc,
je trouve faire très attention.
Ce côté central de
Macron. Je vais faire ma.
Mais ce côté central de Macron avait dû vous parler pendant la campagne. Est-ce qu'aujourd'hui, un an et demi après.
Aujourd'hui, alors, vous savez ce que je. Aujourd'hui, je vote, mais alors vraiment, et ça fait 10 ans que je fais ça, je vote utile. Je pense pas à m'exprimer au premier tour.
Mais je vous demandais pas ce que vous aviez voté, je parlais de son discours.
Non, mais je vous dis, j'ai pas de problème, je vais pas taper sur Macron maintenant, c'est trop tard, fallait le faire avant. Mais j'ai pas voté Mélenchon au premier tour, moi j'ai vu des gamins de 18 ans pleurer parce qu'il avait pas dit au premier tour voter contre Marine Le Pen. Et ça, je lui en voudrais toute ma vie. Et aujourd'hui, je vais voter, j'ai voté Hollande, je voterai Macron comme une social-libérale, voilà. Mais je ne vais pas, c'est pas moi qui parle, c'est l'histoire. À chaque fois qu'on a tapé sur le libéralisme et les sociaux-démocrates, ça s'est mal fini. Et Chéreau l'a bien dit au Zénith, quand Jean-Marie Le Pen est passé au premier tour. C'est mon angoisse aujourd'hui. Comme les mouvements de libération de la femme, moi j'ai peur du retour de Kik tous les jours. Et je l'attends. Je suis désolée, je peux en pleurer. Mais je suis au milieu, je suis centriste. Mon fils un jour m'a dit pourquoi il n'y a pas des extrêmes centristes? J'adorerais être une putain d'extrême centre. Ça n'existe pas, c'est impossible, c'est pas la vie. Je tiens ma petite route petitement de schizophrène.
Non, témoignage très intéressant, je trouve, sur la hiérarchie des priorités au moment de voter.
J'ai peur de l'antisémitisme. Enfin, j'ai peur de tout ce qu'il y a derrière.
Et cette petite lampe qui reste allumée
même
en permanence.
Nous, même vous, on est responsable à un endroit.
Non, mais on fait le jeu du Front National, c'est clair.
Peut-être.
Pascal Arbiot avec nous. Et à côté de vous, le retour d'Isabelle Sorante.
Oui, alors, frères et sœurs, pour cette saison 2018, j'ai décidé de vous proposer une lecture rituelle de l'actualité. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, la question que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez sur cette antenne, et c'est le sacrifice humain.
C'est vrai.
Oui, le sacrifice humain, Clara, c'est aussi vieux que la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que c'est vraiment très vieux. C'est aussi vieux que l'envie de négocier avec des forces qui nous dépassent en faisant couler le sang. Alors bien sûr, si je dis sacrifice humain, vous aurez tendance à penser aux Aztèques. Parce qu'on garde tous en tête cette image d'un grand prêtre au sommet d'une pyramide, en train d'arracher le cœur d'un guerrier au torse nu, au milieu d'une jungle luxuriante. Des images popularisées par Mel Gibson, un grand amateur d'histoire des religions, dans le film Apocalypto. Mais il faut comprendre les Aztèques. Les Aztèques vivaient dans une permanente angoisse cosmique. Ils croyaient que quatre soleils, quatre, les avaient précédés et ces quatre soleils s'étaient tous éteints. Ils vivaient donc sous le cinquième soleil et ce cinquième soleil menaçait de s'éteindre aussi. C'est très angoissant. Alors, pour redonner des forces au soleil, il faut le nourrir. Et pour nourrir le soleil, il faut du sang. Il arrivait que les Aztèques sacrifient plusieurs centaines de personnes en une seule journée. En général, le grand prêtre donc leur arrachait le cœur, mais l'autosacrifice était également pratiqué. Verser son sang pour le soleil était considéré comme un honneur. Alors, ne soyons pas racistes, il n'y a pas que les Aztèques, on trouve aussi des sacrifices humains dans les pays nordiques jusqu'au début du Moyen-Âge, Clara. Je n'aurai malheureusement pas le temps d'en détailler toutes les modalités horribles dans les 4 minutes de cette chronique. On trouve aussi au Japon le rituel du Itobashira, qui a perduré jusqu'au XVIe siècle et qui consistait à enterrer des gens vivants sous un bâtiment pour que les dieux du vent et du tonnerre ne le démolissent pas. Disons que ça rendait les fondations solides.
C'est le rire de Clara Dupont-Mono.
Elle est pas sage, Clara.
Le rire sardonique, c'est extrêmement
intéressant. Quel rapport avec l'actualité, me direz-vous? Je vous vois tous inquiets. Bien, j'y viens. Pour résumer les choses, donc, nous avons aujourd'hui du sacrifice humain la même perception que les anciens Grecs. Pour eux, c'était quelque chose qui appartenait à un passé légendaire, un peu comme le sacrifice d'Iphigénie par son père Agamemnon, ou alors quelque chose d'affreux que seuls les barbares pouvaient encore pratiquer. Un peu comme les sacrifices d'Albinos en Afrique, quelque chose qui ne nous concerne pas du tout, nous, les descendants des Grecs. Sauf que, n'oublions pas que le point de départ du sacrifice humain, c'est la peur des éléments. Or, avec le réchauffement climatique, nous vivons une période d'angoisse cosmique, impossible à renier. Un psy nous dirait que ceux qui nient l'angoisse sont en réalité ceux qu'elle tourmente le plus. Comme par hasard, le déni de l'angoisse, ce que notre jargon hyper-moderne appelle le climato-scepticisme, le déni de l'angoisse cosmique fait très bon ménage avec le racisme et la haine des pauvres. Et sans qu'aucun ministère du hasard et du sacrifice humain n'ait été créé nulle part, voilà que 600 hommes et femmes ont été noyés en 4 ans dans la Méditerranée, soit l'équivalent de 6 hécatombes. Mais nous sommes si persuadés d'être rationnels, nous sommes si persuadés d'être au-dessus de ça. Voilà qu'un salarié par jour se suicide dans les entreprises à cause du travail, ce qui fait l'équivalent de 3 hécatombes par an. Mais nous sommes si persuadés d'être rationnels. Alors, nous préférons parler de dégâts collatéraux et de mondes complexes, plutôt qu'admettre que nous offrons des hécatombes à des dieux si efficaces que nous ne savons pas que nous les prions. Des dieux si efficaces qu'ils nous font perdre la raison. Des dieux nommés rationalisme, rentabilité et communication. Frères et sœurs, c'est la fin de cette homélie.
Merci Clara Dupont.
Non, c'est pas moi.
Non, mais je n'ai pas d'ego.
C'était bien quand même.
Je suis troublée. Notre grande prêtresse, Isabelle Sorrente.
Je suis très flattée, j'aurais adoré l'écrire.
Merci pour cette brillante démonstration. Ça ne pouvait pas être Clara, ça ne pouvait être que vous, Isabelle Sorrente. Merci. Non, mais je suis troublée par la
brillance. Ça m'a filé la patate. Wow.
Il y a du niveau là maintenant, Thomas Croisière.
Je signale. Oui, ne vous inquiétez pas, je ne me relèverai pas.
Pascal Arbillon, notre compagnie au cinéma pour vous détendre. Guide d'Alex. C'est en ce moment, ça sort aujourd'hui en salle. Et pour se détendre aussi, la musique de Stéphane Echer. Il n'est pas tout seul, il est avec son Famon. Ah, nous aussi on adore. Tractor Kestar.
Ce peu d'amour que tu me donnes, ce peu d'égards que je reçois, sent-il de trop pour un seul homme? Sent-il de trop venant de toi? Prends garde que je ne me lasse, que ton jeu ne m'amuse plus que celui qui prendre ma place pour bien te tanner le cul. Je le pense, malgré le bien que je te veux, je sens bientôt venir ta chance. Tu as besoin d'ouvrir les yeux. Des avaricieux, ma facitude était un homme. Je te vendrai par le milieu.
Et son Tractor Questar sur son dernier album. Je pense qu'il est au Grand Rex en février. J'ai très envie d'aller voir Pascal Herbiot aussi.
Il est trop beau, on trop adore. Gentil,
il est trop sympa. Et il est extrêmement sympathique. Vous pouvez réécouter en podcast l'émission avec Stéphane Escher.
Ouais, c'est fait.
C'est vrai,
ouais, vrai. Ouais, ouais.
Par notre invité la du femme. Jour, Pascal Herbiot. Alors à cette heure-ci, Pascal, puisque vous êtes auditrice de cette antenne et de cette émission, vous savez que nous aurions dû retrouver Guillaume Meurice,
ouais,
qui a viré à droite cet été.
J'ai appris la nouvelle en direct il y a deux jours, c'était catastrophique. Je suis allée sur internet, j'ai vu son...
Il nous a pas prévenu, on est tous un peu sous le choc. Alors le médiateur de Radio France nous fait parvenir beaucoup de courriers concernant cette absence, et je vous lis un de ces courriers tout à fait authentique. Bonjour, il me semble que les auditeurs de France Inter sont adultes et ont droit à la vérité sur l'absence de Guillaume, les explications humoristiques de Charline, qui semble très gênée, ne passent pas. Nous sommes en droit d'avoir la version de Guillaume Meurice. J'ai peur pour l'avenir de cette formidable équipe si une tête disparaît et que l'on pense passer à autre chose en réalisant une vague pirouette. Merci d'avance de nous informer, de ne rien cacher. Nous sommes grands, la preuve. Nous écoutons France Inter. Salutations, Philippe. Merci Philippe pour votre courrier.
On en a beaucoup des comme ça.
Effectivement. Ouais. Alors Clara, puisque vous avez été vue au bras de Guillaume, place Vendôme l'autre jour, vous confirmez qu'il est devenu de droite?
Non, il a juste retrouvé ses esprits.
D'accord.
Il est juste devenu complètement normal.
Et Philippe,
il a ouvert les yeux.
Qui réclamait des explications. Vous allez être exaucé puisque Guillaume nous a adressé un message ce matin que voici.
Ouais, bah salut à tous. Beaucoup de questionnements quant à mon absence depuis le début de la saison de Par Jupiter. Et ben, en fait, voilà, c'est tout simple. J'ai décidé d'arrêter de me mentir. D'arrêter de vous mentir, on m'avait confié le rôle de l'écolo bobo gauchias de la bande, et c'est vrai que c'est devenu très difficile pour moi à assumer en dehors. Voilà, je vous le dis, je suis sincère, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me demander des nouvelles de Marie-Georges Buffet, enfin c'est voilà, ils m'offrent des albums de Jean Ferrat, des pulls de la Camif, bref, j'en ai marre d'avoir la vie de Thomas Legrand. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que je monte dès à présent le club Les Jeunes avec Dominique Seux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour son accession à la présidence de la République en 2022. Et puis, il me reste à vous embrasser tous et principalement, évidemment, Clara. Hein, on se retrouve à la maison ce soir, bébé. Et en vous souhaitant une bonne route.
Et voici pourquoi nous retrouvons à présent Thomas Croisière.
Bonjour Charline.
Semi-nu, hein, quand même.
Bonjour Thomas. Semi-nu, si vous nous rejoignez en vidéo, bien sûr.
Ah oui, quel plaisir de me voir demi-nu et de recevoir Pascal Arbillot, qui dans Guy d'Alex Lutz joue le rôle de sa compagne Sophie Ravel, sans doute parce qu'elle porte bien le boléro de Ravel.
Oh, c'est fait.
Voilà, c'était ma blague de rentrée. Guy est un documentaire, comprenez, un documentaire menteur, avec nostalgie, pas la radio, où je finirai probablement ma carrière, mais ce sentiment diffus qui intervient quand le présent n'est pas à la hauteur des promesses du passé. Alex Lutz raconte la carrière de Guy Jamais. Personnage fictionné où l'on retrouve du Herbert Léonard, Serge Lama ou Charles Dumont, vieux beaux qui font frissonner maman et que l'on écoute avec elle en voiture ou à l'Olympia en matinée en se moquant avec une infinie tendresse. Personnellement, j'y devine aussi Guy Mardel, représentant français à l'Eurovision en 1965 avec...
N'avoue jamais, jamais, jamais.
Jamais, comme le nom de notre héros Guy Jamais, personnage qui n'a jamais existé, sauf dans ce film, tout en postiche et en pastiche, qui m'a donné envie de vous proposer un top 5 des meilleures parodies de chansons d'amour. Numéro 5.
Et devant les débris de notre passion, soudain dans mon esprit s'infiltre une question. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?
À la manière d'un Charles Aznavour, Jean-Yann nous demande « Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?» Jean-Yann avait tous les talents, même organiste, et l'on retrouve dans Guy l'ironie de films comme « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Ah oui. Mais aussi son ancienne compagne, Nicole Calfan, formidable en attaché de presse, mais pas que, Q-U-E-U-E. Numéro 4.
C'était toi qui était là, et puis flan, et plus là, en automne, ça m'étonne.
En pleine période yéyé, les Charlots parodient avec Cet été, c'était toi les tubes de l'été. La discographie des Charlots compte autant de chefs-d'œuvre oubliés que de blagues oubliables. Les Charlots, pris comme Guy Jamais pour des ringards, alors qu'ils ont vendu plus de places de cinéma et de concerts que Louis Garrel et Juliette Armanet réunis. Ils sont aussi le seul groupe français avec téléphone à avoir tourné avec les Rolling Stones et sont donc tous, et sont donc tout, sauf des Charlots. Numéro 3. Alain Chabat et les réalisateurs Nicolas et Bruno, incubés comme Alex Lutz par Canal+, créent dans la personne aux deux personnes Gilles Gabriel. Un Guy Jamais version 80s tout en coupe mulet et en teddy. Comme un baiser de Robert Doisneau, je veux qu'on soit beau sur la photo. Avec 10 ans d'avance, Nicolas et Bruno avaient la vision d'Instagram et de la vacuité des photos nichonnées des entêtantes et sans tétons influenceuses de leur cul qui m'habitent. Numéro 2. En 1982, les Soudoués en vacances ont besoin d'une chanson pour un crooner sur le retour. Vladimir Cosma, le génial compositeur du Grand Blond, Rabbi Jacob ou La Boum, a alors l'idée de jouer l'été indien à l'envers et ça donne Destinée. Chanson destinée à être une blague et qui finit par vendre 800 000 exemplaires et faire le bonheur des soirées karaoké. Le crooner ringard est incarné par le velu et génial marchand Guy. La filiation est évidente. Numéro 1.
Te souviens-tu notre chanson d'autrefois ?
Et voici Guy Jamais,
notre refrain,
à la manière de Clo-Clo, période lundi au soleil. Clo-Clo que Guy jalouse et dont il dit qu'il chantait dans le nez. Et puis, il a voulu changer une ampoule. Guy a maintenant 74 ans et Alex Lutz le compose avec un sens de l'observation affiné et raffiné. Chaque son, chaque image est référencé avec culture et maniaquerie. Certains trouveront Guy ringard, mais on est toujours le ringard de quelqu'un. L'essentiel est de le rester suffisamment longtemps pour redevenir à la mode. Michel Sardou et Thomas Croisière en sont les preuves vivantes. Et puis, comme il est dit dans Guy, de toutes les façons, dans les conversations autour d'une table de fête, on ne sera plus qu'un prénom de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération. Alors, peut-être, dans 40 ans, quelqu'un réalisera un mockumentaire sur un humoriste qui se sera épuisé à jouer Catherine et Liliane comme un clown triste dans un cirque de fortune. Il s'appellera Alex et nous rappellera du haut de ses 74 ans et plus de 50 ans de carrière qu'il faut être pour avoir été. Alors, s'il fait beau ce soir, allez voir Guy, car comme le dit mon désalter ego Patrick Chirac, pastiche partant bleu, pastiche délicieux.
Oh là là, la classe. Thomas Croisière.
Quelle rentrée.
Merci Thomas. Voilà. Pascal Arbillot,
c'est hyper
cette
émouvant.
Chronique bien troussée, vous ravie, pour guide et Alex Lutz.
Moi, j'ai eu ça aussi, c'est-à-dire que j'y allais, j'ai regardé le film pour me marrer, et en fait, ça m'a ému.
Ouais. Oui, il y a vraiment touchant. Quelque chose de tendre.
Pascal Arbillot avec nous donc, qui joue la compagne, la dernière compagne de Guy dans ce film qui sort en salle aujourd'hui. Vous l'avez dit, Nicole Calfan avec Dany, Elodie Boucher, Marina Hans, Nicole Ferroni et puis la participation de Julien Clerc, Michel Drucker, oui. Alessandra Sublet. Nous allons aborder cet autre sujet avec vous avant d'entendre Clara Dupont-Mono, puisque Isabelle Sorrent a déjà fait sa chronique.
Moi je les confonds, mais...
Netflix se distingue en produisant des films et des séries qui tiennent compte de la diversité, mais pour l'égalité homme-femme, il reste du chemin à parcourir. Les actrices restent majoritairement cantonnées aux comédies romantiques ou familiales.
Je veux appeler ça le bal des actrices.
Et pourquoi le bal ?
Parce que je vais mettre des séquences où elles vont parler de leurs rêves, mais en chanson et en dansant. Un peu comme une comédie musicale. Oui, donc tu veux pas ?
Non.
En fait, avec le fric qui t'intéresse. Tu vas produire une comédie romantique, c'est ça ? Un Bridget Jones à la française, avec Jean Dujardin et Audrey Tautou.
Oui, j'adore ça.
Quelle nouveauté, quelle idée, c'est original.
C'est du cinéma.
En fait, t'as pas de couilles. Quand tu fais du shopping, va t'acheter des couilles.
Le bal des actrices, le film de et avec Mai Wen. Alors, la presse féminine en ligne relaye cette information, une étude qui nous explique la proportion dans les apparitions à l'écran sur Netflix. 57% d'hommes, 43% de femmes. L'écart,
ça va, ça va.
L'écart est raisonnable.
50-50, c'est la dictature. Bah, ça veut dire qu'on en supprime et on pourra en mettre d'autres.
Là, il faut un tableau Excel, on est d'accord.
Ouais. Et voilà, de nouveau pas d'accord. Alors, après le sujet, c'est reparti.
Non, alors, en revanche, il y a OCS, qui est aussi des plateformes françaises, donc à faire la parité. Ouais. On parle de Netflix, donc on parle d'OCS.
Non, mais c'est marrant que. C'est mieux d'être noir que d'être femme.
Alors, Netflix fait un effort sur la diversité et produit des séries, etc. En revanche, il est vrai que. C'est-à-dire qu'il y a une analyse fine qui a été faite, ils ont pris toutes les séries, ils ont regardé, la conclusion c'est aussi que les femmes jouent quasiment à 80% dans des séries plutôt romantiques ou familiales.
Alors, moi je vois que des femmes mères castratrices dépressives, dans tout ce qui arrive, sans parler de la Servante écarlate, alors après que les femmes jouent des victimes parce qu'elles le sont peut-être dans la vie, mais je vois aussi dans plein d'autres séries en ce moment beaucoup de gars qui écoutent de la musique dans des salons dépressifs, qui boivent de l'alcool et qui attendent que leurs femmes rentrent.
Et puis dans Narcos, il y a forcément plus de mecs, non ? C'est bon.
Pourquoi ? Parce qu'on prend plus de drogue ? C'est quoi encore ?
Bah non, parce que
non, mais surtout, le vrai scandale, c'est que dans ce studio, il y a 66% de femmes, la réalisatrice est une femme. Je veux dire, c'est franchement.
La directrice est une femme.
C'est gênant.
C'est les salaires qui coincent.
Moi, je voulais travailler chez Netflix.
C'est les salaires, c'est les salaires qui coincent.
Est-ce que les scénarios que vous recevez, vous, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de beaux rôles de femmes ? Vous faites cette réflexion-là ?
De plus en plus, et surtout, je pense que justement, les feuilletons proposent et permettent une diversité, parce qu'il faut aussi parler de plusieurs générations. Bien sûr. On feuilletonne, il y a plein de personnages qui ont des parents ou des enfants. Et du coup, il y a une palette maintenant.
Surtout en télévision aussi.
Ah bah là, ça devient incroyable. Alors après, on voit beaucoup plus de mères abusives, mais on voit aussi les dégâts de la famille. Mais ça, c'est
et puis à la télé, il y a toujours Mimi Mati, Xena la guerrière, il y a des femmes.
On aurait pu faire Josiane Jamais. C'était jouable de faire. Oui. Non, mais là, ça aurait pu être une chanteuse, Guy Jamais.
Complètement, mais oui. Ça va arriver. Mmh.
Mais voilà, conclusion positive.
Un jour, il y aura une serial killer héroïne, il y aura une dictatrice.
Killing Eve.
Bah oui, c'est ça. Y a, voilà.
Et Clara Dupont-Mono, bien sûr.
En parlant de dictatrice, bien sûr. L'actualité, c'est bien sûr le film Guy, dans lequel vous jouez, Pascal Arbillot. Et dans ce film, il y a une scène, entre autres, à la fois drôle et terrible, où Guy, donc qui est un vieux chanteur, est invité à une émission de radio. Voilà. Donc Alessandra Sublet l'accueille avec le sourire, elle est pimpante, tout va bien. Bien, jusqu'au moment où arrive une chroniqueuse un peu branchée qui fait une chronique musicale et qui démolit Guy et en gros qui lui dit que c'est un ringard. Non, ouais. Et la caméra s'attarde sur le visage de Guy, donc joué par Alex Lutz, et c'est terrible parce qu'il écoute son propre désengage dans un silence qui est très particulier, qui est un silence meurtri. Alors, il se trouve que la littérature adore ce genre de silence, les silences meurtris. C'est le père Goriot dans Balzac qui encaisse sans broncher les méchancetés de ses filles et qui dit, je cite, « Je n'ai point froid si elles ont chaud, je ne m'ennuie jamais si elles rient ». C'est une phrase terrible. Mais c'est aussi Emma Bovary qui se tait alors que son amant Rodolphe est en train de l'abandonner. Et puis c'est aussi, c'est Julianne Barnes, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Pascal, dans son... Mais c'est magnifique, son dernier livre magnifique qui s'appelle La seule histoire et qui raconte le silence meurtri de Paul qui voit disparaître son seul et unique grand amour qui s'appelle Suzanne. Alors c'est un peu comme Guy Jamais parce que Paul, lui, il a eu son heure de gloire, celle de la jeunesse. Le roman s'ouvre au moment où il a 19 ans, il a du succès et Paul chavire pour une femme qui a 48 ans, qui est mariée et qui a deux enfants. Alors, petite précision, on est dans la banlieue résidentielle de Londres dans les années 60, autant dire qu'il est hors de question qu'un jeune homme de 19 ans chavire pour une femme mariée de 48 ans. Mais ces choses-là ne se décident pas, je ne vous apprends rien, Vizorek. Paul et Suzanne s'aiment. Et le soir où Suzanne rentre de chez son mari avec la mâchoire fracassée, Paul décide qu'il est temps de l'enlever de cette banlieue résidentielle et de partir à Londres. Donc ça veut dire couper les ponts avec ses parents, ça veut dire trouver de l'argent. En gros, enlever son amoureuse, c'est follement romantique, mais enfin, il ne faut pas non plus oublier le réel. Et le réel, il a souvent une tête pas très jolie. Et la preuve, il arrive assez vite, c'est qu'au fil des mois, Paul découvre que Suzanne a un secret qui a l'odeur assez désagréable du chagrin, qui a aussi l'odeur de l'addiction. Il va lutter, et au bout de 10 ans, épuisé, il l'abandonne. Et toutes les années qui vont suivre seront nimbées de ce silence meurtri, avec parfois une colère sourde, exactement comme celle de Guy Jamais dans la séquence de la radio. Donc, c'est un livre qui dit que ce qu'on a vécu, on ne peut pas le refaire, mais que ce n'est pas grave, parce que, je cite, « les tréfonds de notre être ne l'oublient pas, parce que nous avons été changés pour toujours. » Paul, il a une assez belle vie. Il a d'autres histoires d'amour, il a un beau parcours professionnel, mais il vit avec le fantôme de Suzanne. Ça l'attriste un peu, mais c'est presque une obligation morale. Étrange que lorsqu'on est jeune, on ne se sente pas de devoir envers l'avenir, mais quand on est vieux, on a un devoir envers le passé, envers la seule chose qu'on ne peut pas changer, écrit Julianne Barnes. Magnifique.
C'est sublime.
Et bien, bien avant Barnes, ce qui est encore plus fou, c'est que Gustave Flaubert, encore lui, décrivait la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin de l'éducation sentimentale, quand le personnage principal, Frédéric, retrouve enfin celle qu'il a tellement aimée, qui s'appelle Madame Arnoux, son amour, je cite, « n'est plus qu'un amour vieilli, prudent, satisfait d'avoir existé. » Mais tout est dit. Et donc, comme quoi, parfois, il faut savoir se taire, parce que la littérature, comme le cinéma, dit de grandes choses à partir juste de silence. Je vous redonne les références. La seule histoire de Julianne Barnes est parue au Mercure de France.
Merci Isabelle Sorrente. C'est Clara Dupont-Moineau. Merci beaucoup Clara pour cette très belle chronique qui nous enjoint à lire cet ouvrage.
Ah, c'est très beau.
Pascal Arbillot avec nous. On va aborder rapidement ce dernier sujet. Dans l'ancien monde, on faisait des réunions. Dans la Startup Nation, on fait du coworking. C'est-à-dire qu'on se balade, quoi. Mais en réfléchissant. Mais c'est ça le win-win. Après, sur le fond, il n'y a pas grand-chose qui change.
Bienvenue à tous dans cette réunion et merci d'avoir répondu présent. À ce propos, je m'aperçois que je ne connais pas l'objet de cette réunion. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Oui, moi je peux aller me renseigner si vous voulez, monsieur Ranu.
Oui, très bien, excellente idée, Nicole. Oui,
donc... Monsieur Ranu!
Oui, bon, Nicole.
J'ai mené mon enquête. Il semblerait que notre réunion n'avait aucun objet.
Quoi?
Et plus grave encore, apparemment, nous n'avons aucune fonction dans cette entreprise.
Mais enfin, Nicole, c'est impossible. Ça fait 30 ans que je travaille ici. Je m'en serais aperçu quand même.
Bon, écoutez, ce que je propose, c'est de faire une réunion pour tirer tout ça au clair.
La nouvelle fournée des messages à caractère informatif de Nicolas et Bruno, qu'on adore ici sur Canal, et auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, Thomas Croisière. Voilà, le bien-être au travail est devenu l'une des préoccupations des managers dans le monde de l'entreprise. Et c'est pourquoi une nouvelle tendance se dessine sur les temps de réunion, le coworking. C'est à lire notamment sur l'équipe.fr. Vous êtes convaincu, Pascal Arbillot ?
Non, c'est absurde. En même temps, je me dis, il vaut mieux avoir un boulot que pas en avoir, c'est le problème. Ouais, et après, je me dis, dès qu'on est en société, on a des comportements un peu. Puis heureusement que le management évolue. Moi, mon frère travaille dans une entreprise. Heureusement qu'il y a eu les tickets restaurants, les congés payés, tout ça, puis le management. Mais après, il y a un côté Google, un côté paternaliste. Mais ça me rappelle maintenant, vous avez des exercices quand on était en cours de théâtre où justement, il fallait marcher, il fallait faire des cris. C'est pas forcément plus. Je sais pas si c'est mieux.
Ouais, c'est vrai.
Mais l'école péripatéticienne, c'était ça. ça, on marchait en discutant. Alors, je parle de la Grèce antique. Hein,
on cherche des nouvelles formes dans le boulot.
L'idée, c'est d'aller se promener dans un parc, quitte à discuter. C'est pour les réunions à deux, quoi.
Ça permet aux salariés de sortir du cadre de l'entreprise, matérialisé par un bureau qui marque généralement la ligne hiérarchique entre le salarié et son manager.
Mais pourquoi vouloir absolument, à ce point gommer l'endroit qui fait que vous êtes en train de bosser? Ça s'appelle une entreprise. Donc vous êtes derrière un bureau et puis c'est tout. On n'est pas en entreprise.
L'open space, c'est
une connerie monumentale. Mais dans ces cas-là, si on cherche absolument à éliminer les codes de ceux qui vous emploient, c'est quand même super bizarre.
Mais d'un autre côté, comme ici, on est en train de développer la radio nue. Je trouve ça intéressant et je pense que l'étape d'après, et on attendra le printemps, ce sera de faire la radio nue en marchant.
Et des réunions
sur l'île aussi, en face du bureau, ce sera formidable. Copulation a été prononcée.
Des réunions en copulant.
Ça sent une future chronique d'Isabelle Sorand.
Pour répondre à Clara, c'est pour que les gens ne se rendent plus compte qu'ils travaillent pour qu'ils travaillent tout le temps. C'est comme la boîte mail qui s'ouvre.
Donc c'est horrible.
On sait tous que
c'est Alex Vizorek qui pense qu'il fait des blagues, mais en fait il travaille fondamentalement. C'est pour ça qu'il prend du plaisir.
En tout cas, moi je suis tout à fait d'accord avec Pascal Arbillot. L'open space, on aurait d'abord dû le tester sur des rats. Alex
Vizorek. Oui, vous connaissez l'émission, Pascal Arbillot. Vous savez qu'à la fin de l'émission, vous allez devoir interpréter un rôle. Évidemment, nous allons parler de la démission de Nicolas Hulot.
Ouais.
Grande émission de débat. Charline Vanhoenacker et la Caroline Roux qui va présenter ce débat.
C'est dans l'air.
C'est dans l'air.
Super.
Et vous êtes Brigitte Bardot qui a un avis,
non.
Évidemment. Ah oui.
Je sais pas.
Vous vous lancez et c'est ça qui est beau.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. La démission de Nicolas Hulot est-elle une bonne nouvelle? Pour tenter de répondre à cette question avec nous autour de la table, nous avons Christophe Castaner, bonsoir.
Bonsoir Caroline Roux.
Et Robert Blanchard, président de l'association Chasseurs Forever, bonsoir.
Bonsoir, pam pam.
Oui, merci. Et par téléphone, nous avons également Brigitte Bardot.
Mais je suis au téléphone avec la télé, je dois parler de l'autre couille molle là.
Attendez, Brigitte, allô, vous êtes avec nous Brigitte?
Oui, bonsoir, excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie. Goebbels, tais-toi.
Oui, alors Brigitte Bardot, le départ de Nicolas Hulot, est-ce une bonne nouvelle?
Bien sûr, c'était qu'un branleur. Je sais pas le son, pardon. Il a rien foutu pendant un an, silence. Ce sont mes poules.
Ah oui, d'accord. Brigitte, il a quand même fait de bonnes choses pour l'environnement, Robert Blanchard.
Ah, vous me faites rire, les vrais écologistes, c'est nous, les chasseurs, hein, pam-pam. Ouais, qui va chasser les biches parce qu'elles bouffent toutes nos forêts? Pang, c'est nous. Qui se débarrasse des perdrix grises qui polluent le ciel? Pang, c'est nous.
Oui, alors, Christophe Castaner, quelle est la position de La République En Marche?
Je dirais que le débat est complexe, que tous les arguments sont pertinents et vous avez vous-même très bien posé la question.
Oui, merci Monsieur Castaner, mais enfin, arrêtez de noyer le poisson.
Oh, pauvre poisson! Arrêtez!
Oui, alors, Brigitte Bardot, vous souhaitez intervenir peut-être?
Mais non, ils sont si bêtes que l'eau de Shoya arrête de barrir! C'est mon éléphant.
Ah, votre éléphant, Brigitte. Il s'appelle comment?
Jean Larcher.
Ah, très bien, très bien. Alors, revenons à vous.
Pam, pam, pam.
Non, alors plutôt à Christophe Castaner. Votre avis, Christophe?
Oui, puisque vous me demandez mon avis, je vais vous le donner. Et en même temps...
Oui, voilà, revenons un peu à Nicolas Hulot, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Envisagez-vous quelqu'un pour le remplacer?
Ben, vous avez qu'à mettre une bécasse. Elle pourra pas faire pire. Pam, la bécasse.
Ah, c'est faux, il y a des bécasses très malines.
Oh, Brigitte a raison. Et justement, nous comptons rappeler Ségolène Royal. Et...
Ah non, elle m'attrape déjà mes petits, j'en suis même la preuve vivante. Mais arrête, Giscard!
Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière là? C'est quoi comme animal, Giscard?
C'est mon dinosaure.
Merci Pascal Arbillot.
Mais c'était brillant.
Quelle joie de jouer avec vous.
Oh, merci.
Ma comédie. Pascal Arbillot.
J'avais mis en caractère.
Conchiste. Pascal Arbillot est mûr pour le biopic de Brigitte Bardot, sachez-le. Merci chers amis. Pascal Arbillot que l'on retrouve au cinéma. Merci. En salle aujourd'hui sort Guy, le film d'Alex Lutz que nous vous recommandons tous chaleureusement avec Tom Dingler, Nicole Calfan, Dany Elodie Boucher, Marina Hans et Nicole Ferroni entre autres. Merci les amis, merci Isabelle Sorante, Clara Dupont-Mono, Thomas Croisière, Alex.
Oui.
On se retrouve demain, voici le mot de la fin que nous laissons au grand absent Guillaume Meurice.
Il me reste à vous embrasser tous et principalement évidemment Clara. Hein, on se retrouve à la maison ce soir bébé.